Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours MVA consacrée à Azure Active Directory et plus particulièrement à l'intégration d'appareils clients, donc Windows, iOS, Android, etc., dans notre Azure Active Directory. Donc je suis aujourd'hui avec Stanislas.
Bonjour Pascal.
Et on va parler donc de différents sujets. On va parler d'abord d'Azure Active Directory. On va rappeler un petit peu de quoi il s'agit. On en a déjà parlé, mais ça ne fait jamais de mal de revenir un petit peu sur les bases. On va parler des prérequis à l'intégration d'appareils en mode libre service. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'Azure Active Directory avant de pouvoir intégrer nos appareils dedans? On va parler enfin de différents procédés, des différents processus manuels. Comment on va pouvoir intégrer nos machines, qu'elles soient Windows, Windows Phone, iPhone, etc., dans notre Azure Active Directory.
Et on terminera par un exemple d'usage, parce qu'en fait, tout ça, on pourrait se dire, ça sert à quoi?
Oui.
Ça sert principalement à faire ce qu'on appelle de l'accès conditionnel. Et on en reparlera ça à la fin. Je garde un petit peu de suspense.
Tout à fait.
Alors, petit rappel rapide sur ce qu'est Azure Active Directory. Alors, Azure Active Directory, en fait, c'est un service de gestion d'identité. Et donc, ça va permettre de gérer des accès. D'accord. Et en fait, tous nos services de cloud de type software de service, Office 365, Dynamics, Intune, RemoteApp, etc., utilisent en fait cette colonne vertébrale d'identité pour en fait proposer leur service aux utilisateurs. Donc, quand vous êtes aujourd'hui un client Office 365 et que vous loguez avec votre email et votre mot de passe, en arrière-plan, derrière, en fait, il y a un Azure Active Directory qui s'occupe de cette colonne vertébrale d'identité raccordée aux différents services SaaS. L'énorme intérêt en fait d'Azure Active Directory, c'est qu'on peut également s'en servir comme point d'entrée d'identité pour intégrer des applications web et SaaS qui ne sont pas forcément les applications de Microsoft. Ça peut être celles que vous allez développer ou celles qui sont proposées par d'autres fournisseurs, d'autres éditeurs ou de fournisseurs de solutions cloud de type SaaS. Aujourd'hui, il y en a environ 2500 qui sont référencés, ce qui fait que du coup, on va se servir d'Azure Active Directory comme étant son point d'entrée d'identité et faire du single sign-on grâce à Azure Active Directory. Alors, ça devient réellement, quand je parle de colonne vertébrale, ça devient même presque, je dirais, un nœud central. Aujourd'hui, si on prend finalement la grande vision d'ensemble des systèmes d'information et l'utilisation de tout ça, on va avoir des applications cloud qui existent donc chez Microsoft, bon, Office 365, le CRM, etc. On a également plein d'applications cloud qui ne sont pas forcément Microsoft, c'est donc soit des applications métiers développées par l'entreprise et hébergées sur des plateformes de cloud, soit c'est des solutions déjà directement packagées par différents fournisseurs de solutions et qui sont consommées par les utilisateurs. À l'opposé de ces choses qui sont réellement hors de l'entreprise, hors du périmètre physique des data centers de l'entreprise, elles sont à l'extérieur, elles ne sont pas contrôlées entre guillemets. Dans l'entreprise, ce qu'on a ce que les organisations ont dans leur data center, c'est un référentiel d'identité qui est aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années, dans ses versions diverses et variées, qui est Active Directory. D'accord ? Donc utilisé majoritairement par quasiment 100% des clients comme un référentiel d'identité. On peut également avoir d'autres référentiels d'identité au sein des organisations, basés sous la forme d'autres annuaires, des annuaires LDAP, un annuaire Notes, une base de données
applicatif,
exactement. Voilà. Et puis, je dirais, entre ces applications-là qui sont désormais pas mal externalisées, et c'est quand même la tendance du marché de consommer du service plutôt que de recréer chez soi des choses et de les héberger chez soi, on a les utilisateurs qui sont avec des PC, on va dire, historiques, mais également différents types d'appareils aujourd'hui sur différents systèmes d'exploitation qui ne sont pas forcément là encore du Windows. Eh bien, Azure Active Directory, on va le placer finalement un petit peu au milieu de tout ça. Donc, ce sera un service qui sera effectivement hébergé dans nos data centers, donc dans du cloud public, et on va mettre en place des systèmes de synchronisation et de fédération entre ce qui existe sur site dans les data centers des organisations, donc Active Directory ou d'autres référentiels, d'autres types d'annuaires. On va synchroniser le tout et le fédérer dans Azure Active Directory. Du coup, à partir de là, les applications cloud et SaaS, web et SaaS ou cloud, qu'elles soient Microsoft ou non Microsoft, vont pouvoir s'appuyer sur ce système d'identité de type cloud, pour donner ou pas les accès aux utilisateurs. Et les utilisateurs, en fait, eux, quand ils vont présenter leur identité, faire leur demande d'identité, quand ils vont arriver sur un système XY ou Z, une application XY ou Z, effectivement, ils vont faire leur preuve d'identité et leur authentification auprès d'Azure Active Directory. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans ce cours MVA, on va se focaliser en fait sur, on va dire, la partie jaune, c'est-à-dire prendre chaque type d'équipement, de matériel, et voir comment on peut intégrer ces équipements dans l'Azure Active Directory. Et donc référencer ces équipements pour les utiliser après dans ce qu'on verra, ce qu'on appellera les accès conditionnels.
OK.
Donc, dernière chose en termes de rappel, j'ai parlé de synchronisation, j'ai parlé de fédération, juste pour bien replacer. Donc, les applications de type cloud, qui sont donc hébergées au-delà du périmètre physique des organisations, on a plusieurs approches potentielles pour les identifier dans ces applications. Je rappelle que ça fait quand même des années qu'on cherche à rassembler les identités dans un même référentiel. C'est-à-dire de ne pas avoir des bases de compte partout et d'avoir des utilisateurs qui ont 4 logins différents, 4 mots de passe différents, qui se renouvellent sur des rythmes qui ne sont pas les mêmes et qu'à la fin, l'utilisateur il finit par tout noter sur un papier parce qu'il ne sait plus quel login, etc. Donc ça fait des années qu'on cherche à faire du single sign-on. On va dire que les annuaires d'entreprise ont depuis des années ont fait des méta-annuaires, se sont reconcentrés. Donc l'identité est devenue de plus en plus simple. Le single sign-on est une expérience qui est globalement jouable aujourd'hui. Si c'est pour réexposer encore tous les références d'identité en disant chaque fois que je vais instancier, utiliser une nouvelle application SaaS en entreprise, je dois recréer une base de compte spécialement pour mes utilisateurs avec des mots de passe, etc. pour cette application donnée qui est séparée d'un autre silo d'une autre application, c'est ridicule. D'où l'idée de prendre ce point central qui serait Azure Active Directory pour ce rôle-là. Donc on aura plusieurs options. Si l'organisation est petite ou elle ne veut pas faire d'intégration avec des choses existantes, elle peut s'appuyer à 100% sur une identité full cloud. Donc les objets utilisateurs et les groupes seront créés dans l'Azure Active Directory. Les organisations moyennes ou de grande taille n'ont peut-être pas envie de tout recréer, et peut-être, parce que c'est bien de recréer, ça, la création c'est une opération one shot, après il faut maintenir, c'est-à-dire si l'utilisateur il part de l'entreprise et qu'on le supprime dans l'Active Directory de l'entreprise, mais qu'on oublie d'aller le retirer dans l'Azure Active Directory, c'est pas terrible. Même chose, s'il change son mot de passe dans l'entreprise, dans l'Active Directory, si le mot de passe il n'est pas changé sous le même rythme dans l'Azure Active Directory, honnêtement, l'utilisateur au final, il ne sera pas très content. Parce que l'expérience, elle est pas bonne, en fait. Donc, majoritairement, souvent, les entreprises vont faire quoi? Ils vont faire une synchronisation entre leurs identités sur site, leur Active Directory, et projeter cette identité en la synchronisant dans l'Azure Active Directory. Donc, on retrouvera les mêmes condensés de mots de passe, des deux côtés. Ce qui fait que quand un changement est fait côté sur site, il est répercuté automatiquement dans le nuage.
Oui, parce que les contraintes réseau font qu'on est obligé d'avoir deux annuaires quand même pour ce contexte cloud et ce contexte
Exactement.
Interne, LDAP Kerberos, oui. Qui est externe.
Avec d'autres protocoles, avec la fédération.
Voilà, mais on est obligé aussi quand même d'avoir les mêmes identités répliquées. Quoi. Donc il faut faire de la synchronisation avec synchrone mot de passe.
Sachant que le futur va être de plus en plus de faire en sorte que tout ce qui est créé en fait, d'un des deux côtés, soit sur Azure Active Directory, soit sur Active Directory sur site, puisse se répliquer, donc qu'on puisse avoir une réplication bidirectionnelle, de dire si mon utilisateur fait un changement de mot de passe dans Azure Active Directory, ce changement de mot de passe est répercuté sur site sur l'Active Directory. Là encore, pour simplifier la vie de l'utilisateur, pour simplifier l'administration des administrateurs, etc. Après, je peux comprendre que dans certaines situations, une organisation ne souhaite pas synchroniser à l'extérieur de son périmètre réseau physique data center les condensés de mots de passe. Pour simple, les mots de passe, mais c'est des condensés. Et donc, dans ce cas-là, on va faire appel à ce qu'on appelle de la fédération. Dans la fédération, en fait, on va synchroniser les objets utilisateurs. On ne synchronisera pas, on n'a pas besoin de synchroniser les mots de passe ou les condensés de mots de passe. Et donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y aura une authentification auprès d'une application externe, SaaS, il y aura un passage d'identité obligatoire qui reviendra sur un service exposé depuis le data center de l'entreprise, ce qu'on appelle le service de fédération. Chez Microsoft, on appelle ça un STS, un Secure Token Server, qui délivrera un jeton de sécurité à l'utilisateur.
C'est l'IFS qui expose une authentification de type web.
Exactement. On peut faire le choix également de faire de la fédération et de synchroniser quand même ces mots de passe, ce qui serait intéressant pour du fallback. C'est-à-dire que si on commence à faire de la fédération, ça veut dire qu'on met une infrastructure hautement disponible pour assurer le service de fédération dans le data center sur site. Mais si ce service tombe pour une raison X, Y ou Z, ça veut dire que même les applications externes, on ne peut pas y accéder parce qu'on ne peut pas s'authentifier, vu que le service de fédération n'est pas disponible. Donc on peut faire de la fédération d'identité tout en synchronisant quand même ces condensés de mots de passe, auquel cas, si la fédération n'est pas disponible pour des raisons X, Y ou Z, on aura un fallback et à ce moment-là, l'authentification se fera avec les condensés de mots de passe qui seront cette fois-ci réellement utilisés dans Azure Active Directory. Donc c'est plutôt bien pensé. Voilà, alors prérequis pour intégrer des équipements à Azure Active Directory. Alors pourquoi on intègre des équipements dans Azure Active Directory? Simplement parce qu'aujourd'hui on est dans un phénomène dit de Bring Your Own Device, où les utilisateurs viennent avec leur smartphone, leur tablette, et peuvent du coup consommer des applications qui sont des applications web, vu qu'ils ont un navigateur. Si le contrôle se fait uniquement sur le login et le mot de passe de l'utilisateur, qu'est-ce qui nous empêche à la limite de déverrouiller l'accès à l'application? C'est là que rentre en compte l'accès dit conditionnel. Et donc, sans vouloir contrôler à 100% des périphériques personnels, l'IT peut gérer ce phénomène de consumérisation de l'IT ou de bring your own device en disant, je ne vais pas dire non à ce phénomène-là, mais je vais l'accompagner et je vais dire oui mais. Donc, je te laisse accéder aux applications d'entreprise depuis ton périphérique personnel sous condition que je te connaisse à moins un minimum. Et donc, on va avoir des mécanismes qui existent en fait depuis 2012, si je ne dis pas de bêtises, qu'on appelle du Workplace Join, qui consiste en fait à enregistrer un équipement dans l'annuaire. Ici, ce sera l'annuaire Azure Active Directory. Et donc, on saura associer à un utilisateur des équipements donnés, sans pour autant forcément le manager, mais au moins connaître sa présence et son existence.
Donc, c'est un service qui s'appelle DRS, Device Registration Service, qui existe également dans Windows Server, depuis oui. Windows Server 2012 R2.
On peut appliquer sur une infra 100% sur site.
Tout à fait, c'est un service qui fait partie de ADFS.
Exact.
Donc on peut l'exposer également à l'extérieur de l'entreprise via ADFS, qui permettait donc à des appareils, pas forcément Windows, de joindre l'Active Directory, d'être connu de l'Active Directory, de récupérer quelques paramètres de sécurité.
On appelle ça des claims, je crois.
Au passage.
Ouais.
Ça permet également aux applications internes, voilà, de intranet, internet exposées, de connaître certaines informations sur l'utilisateur et sur son device. Par exemple, de faire des choix en fonction de l'OS du device, de l'identité de l'utilisateur, du fait qu'il est dans le domaine ou non, enfin qu'il est que son PC est connu ou non, etc.
Le but est réellement, il y a vraiment deux objectifs principaux, je pense. Je pense pas qu'il y en ait trois. Le premier, c'est de savoir associer un équipement à un utilisateur, de savoir que cet utilisateur, c'est son équipement à lui, en avoir une trace quelque part.
On a effectivement ce lien, c'est telle personne qui a enregistré tel device.
Voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est, ok, tu viens avec ton équipement, mais je veux au moins le savoir. Et le deuxième monde, c'est de dire, pour accéder à mon application depuis quelque chose que je ne manage pas en termes d'IT parce que ça ne m'appartient pas, je peux imposer au moins de le connaître. Donc imposer de connaître l'équipement pour pouvoir accéder à l'application. Donc ça du coup imposer à l'utilisateur d'être dans ce mode de oui mais. L'utilisateur dit ok, moi j'accepte de m'enregistrer parce que je veux pouvoir utiliser mon périphérique personnel.
Voilà. Et puis c'est moins lourd qu'une jonction au domaine ou tout ça, et puis c'est plus ouvert.
Voilà, on n'est pas sur une jonction au domaine et on est plus ouvert effectivement sur le système d'exploitation.
Donc c'est quelque chose qui existait dans Windows Server, au début uniquement avec Windows 8.1, puis ça s'est petit à petit ouvert à d'autres OS, et maintenant donc c'est apparu pour Azure AD.
Exactement.
Dans la version cloud de l'Active Directory.
Quand on va dans la console d'administration d'Azure Active Directory, dans la partie configuration, on a une sous-partie qui s'appelle device, équipement périphérique, équipement plutôt, appareil, dans lequel effectivement on voit différents paramètres. Le premier dit que l'utilisateur a le droit de joindre jusqu'à 20 équipements par utilisateur. Voilà. Là encore, l'IT peut choisir de dire l'utilisateur, ok, il a deux tablettes, deux téléphones, quatre, ça suffit. Voilà, c'est au choix après. De toute façon, après, vous avez un audit de tout ce qui a été rentré. L'utilisateur qui a 20 équipements, c'est quand même un peu bizarre, mais ça peut être un testeur particulier, par exemple.
Oui, il peut avoir testé 20 équipements. Ouais.
Exactement. On peut imposer des choses, comme par exemple d'utiliser de l'authentification multifacteur pour intégrer son équipement personnel dans l'Azure Active Directory, donc l'authentification multifacteur. MFA, c'est un service qui est disponible avec l'édition premium d'Azure Active Directory et qui permet de recevoir une authentification complémentaire sur un téléphone sous différentes formes. Ça peut être un appel, l'appel d'un ami, enfin c'est MFA, l'ami. Ça peut être un SMS avec un code à l'intérieur ou ça peut être une application mobile qui va servir de token d'authentification. Donc du coup, là, on est certain que ce sera bien l'utilisateur physiquement qu'on connaît, qui joindra le périphérique. Après, on a deux options ici derrière. On va commencer par la quatrième ligne, User May Azure Join Device. Donc, qui est aujourd'hui dans la capture d'écran en preview, on est sur un mode où effectivement les fonctionnalités arrivent. À partir du moment où on active cette, qu'on autorise pour tous les utilisateurs de joindre des périphériques, automatiquement la ligne du dessus est grisée, parce que ça veut dire qu'on fera du workplace join.
Ça veut, oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on active le Azure AD Join, quatrième ligne, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, la ligne précédente, le workplace join, est obligatoire.
Ouais.
Donc, c'est pour ça. Si on ne l'active pas, on aura le choix d'activer ou non le workplace join.
On vous parlera tout à l'heure des différences entre un Azure AD Join et un workplace join.
Voilà.
Elle est subtile, mais elle est importante.
Et enfin, dans le cas de l'Azure AD Join, la dernière ligne indique la possibilité de définir certains administrateurs ou groupes d'administrateurs qui seront automatiquement intégrés au groupe local des administrateurs sur une machine Windows dont on ferait un Azure AD Join.
Ah, intéressant.
On joindrait au domaine.
Intéressant.
Un petit peu dans le mode, quand je joins un domaine Kerberos, un domaine Active Directory, automatiquement, domain admins vient dans le local, groupe local administrateur.
D'accord.
C'est un petit peu le même principe.
D'accord. Donc là, on parlerait plutôt des global admins de l'Azure AD, probablement, ou des admins délégués dans les administrative units, peut-être.
Peut-être, oui. En tout cas, ce qui est super intéressant ici, ça veut dire que la sécurité de Windows prend en compte maintenant des identités de Azure AD.
Des entités full cloud.
Ouais. Dans le cas de l'Azure AD Join.
Donc là, un petit exemple, juste pour vous montrer que graphiquement, pour chacun des utilisateurs d'Azure Active Directory, on a un onglet particulier dans l'ensemble des attributs que contient cet utilisateur Azure Active Directory. Et là, on voit ici, dans la partie device, que j'ai un utilisateur qui a un périphérique, qui a un nom qui a été auto-généré avec une date et une heure, qui est sur une plateforme de type iPad et qui est en configuration sous la forme d'un workplace join et qui a été authentifié. À tout moment, on peut effectivement supprimer le périphérique ou le bloquer si on estime que ce n'est pas ce qu'on veut comme périphérique pour ce type d'utilisateur. Voilà, on a terminé la première partie. Prochaine partie, on va voir avec Pascal comment joindre ou connecter, intégrer des machines Windows dans de l'Azure Active Directory.